Pour cela, nous sommes vos ennemis. Nous sommes contre vos idées, contre vos pensées, vos obscénités, votre chrétienté, votre violence. Nous refusons toute idée d'une vie qui serait totalement réduite au minimum vital.
Un mot trop, et c'est un mot plus en orange.
Les flics tabassent, sortent le P38 et le flic du flingue de classe.
Les flics, la police, c'est le vice.
Et par des keufs se font d'année, c'est connu, les parisiens des histoires comme as.
La route du guet, mec, les flics, si.
Soit du rouge, aussi rouge que vos bavures.
J'ai mal au cœur quand ta frère meurt.
Ton frère meurt.
Un accident de travail, à t'en faire peur de sortir sans pare-poil.
Bonjour, bonjour. Alors, nous sommes le jeudi 20, il est midi 2, et votre poste analogique est réglé sur le 99.5, c'est-à-dire Radio Audio. Et vous écoutez l'émission du numéro 0, voilà, qui a lieu tous les 15 jours, un jeudi sur deux, à midi, rediffusé le jour même à midi. Alors, aujourd'hui, c'est une émission spéciale histoire. Et nous avons accueilli pour la deux ou troisième fois les personnes du Grémos qui vont nous parler de la période de guerre à Saint-Étienne et pour ce qui en est de leur des syndicats pendant la guerre à Saint-Étienne. Voilà. Qu'est-ce que... Eh bien oui, il faut que je mette en route les micros si on veut s'entendre. Alors, on a... des invités dans le studio qui vont se présenter déjà, peut-être. Oui. Vas-y, c'est bon.
Ah, voilà. Donc là, il me semble qu'on nous entend. Donc bonjour. Donc on a trois invités dans les studios qu'on a déjà invités, qui sont des membres du Grémos, donc le groupe de recherche et d'études sur les mémoires des mondes ouvriers stéphanois. Bonjour Alban Graziotin, doctorant en histoire. Bonjour Jean-Michel Stenner.
Bonjour.
Tu es historien. Et bonjour Daniel Colson, sociologue, on peut dire.
Bah oui.
D'accord. Voilà, donc aujourd'hui, un peu plus précisément, en fait, on s'est penché sur ce qui se passe pendant la guerre au niveau du mouvement ouvrier, des milieux ouvriers et des mouvements syndicaux. Donc pendant la guerre de 39-45 à Saint-Étienne, on s'est rendu compte qu'il y aurait besoin d'au moins 2 heures pour en parler. Donc aujourd'hui, ce sera que la première partie. Enfin, il y aurait besoin de 20 heures, mais des fois, il faut un petit peu limiter les historiens. Donc on va faire cette émission en 2 parties. On vous annoncera plus tard quand sera la 2e partie. Et aujourd'hui, cette émission, la première partie de ce volet sur... la guerre 39-45 à Saint-Étienne. On va d'abord parler avec Jean-Michel Stenner du rôle et de l'attitude du mouvement ouvrier à l'entrée de la guerre et juste avant la guerre. Et ensuite, on parlera plus des syndicats et du mouvement ouvrier en pleine guerre avec Daniel Colson. Voilà, en gros. Mais je crois qu'avant, notre technicien avait une question
à poser.
J'ai,
moi, en tant que simple auditeur, j'avais une question un peu bête, peut-être, je me demandais, alors peut-être chacun pourrait y répondre à son tour, pourquoi s'intéresser à ces choses du passé, alors que quel est l'intérêt pour vous et pour nous de faire de l'histoire, et surtout de l'histoire celle-ci.
Et d'embêter nos auditeurs à midi avec ça.
Alors Daniel, oui, tu veux commencer à répondre
Bah ouais, donc...
Moi, j'aurais trois réponses à faire. La première, c'est qu'on a intérêt à s'intéresser au passé parce que, en fait, le passé ne passe pas et continue d'agir plus ou moins inconsciemment dans la vie actuelle. Je donnerai l'exemple du Front National avec la nouvelle génération qui est en train de s'imposer avec Marine Le Pen. En fait, on ne peut rien comprendre au Front National, à ce qui s'y dit, à ce qui s'y passe et à ce qu'ils essayent de recycler dans la situation actuelle si on ne remonte pas à la période de la guerre, de la même manière qu'il faudrait remonter à la guerre d'Algérie, etc. Donc, si on ne s'intéresse pas au passé, il risque de nous revenir dans la figure sans qu'on s'y attende. La deuxième raison, peut-être qu'il faudrait plus de temps pour en parler, c'est que tout événement du passé nous touche. C'est une position sociologique et un peu théorique, c'est que tout événement du passé nous touche comme par sa singularité et que donc, sinon on ne comprendrait pas pourquoi il y a plein de gens qui s'intéressent à l'histoire et qui essayent de retrouver Marie-Antoinette ou je ne sais pas quoi. Et la troisième raison, c'est que le mouvement ouvrier a été un moment dans l'histoire, je ne sais pas bien quel est son avenir, mais a été un moment dans l'histoire très important pour tous ceux qui souhaitent changer de monde et qui se situe dans une perspective d'émancipation. Et donc, ce passé est très important pour nous, en particulier dans la situation actuelle.
Toi, bon, pourquoi tu as décidé de t'intéresser tant à ces périodes et ces choses et d'en parler aussi publiquement, de les raconter ?
Je pense que chaque historien a une approche singulière aussi, qui peut être un peu familiale. Donc chaque historien va rechercher dans le passé une part de son propre passé et de la famille dans laquelle il a vécu, dans la ville dans laquelle il a grandi. Donc moi, c'est cet intérêt-là qui m'a poussé à faire de l'histoire. Donc se comprendre, on va dire, c'est peut-être un peu égoïste comme approche, mais en fait, chaque historien, je pense, recherche fondamentalement ses propres racines à travers ses recherches. Et puis, plus particulièrement, après, quand on s'intéresse à l'histoire en général et à l'histoire du temps présent, comme on l'appelle aujourd'hui, il y a ce voile idéologique qui peut apparaître ou cette occultation de certains faits du passé qui peut être opérée par différents acteurs ou institutions. Et le rôle de l'historien sera toujours d'arriver à déterrer les enterrés vivants, on va dire. Donc, arriver à remettre sur le... pas sur le devant de la scène ni sur de l'actualité, les questions passées, mais à donner un sens à la vie de tous ceux qui sont occultés généralement dans la société actuelle, et notamment ce monde ouvrier, ce mouvement ouvrier qui a été pour autant un des fers de lance de la reconstruction après la guerre, qui a eu une importance phénoménale et qui a complètement disparu à partir des années 80, alors qu'il y a toujours des ouvriers dans ce pays. Donc voilà, c'est pour aussi en même temps leur redonner une mémoire qu'ils pourraient avoir oubliée, bien que cette mémoire soit multiple et pas facilement abordable et appréhendable, et qu'il ne faut pas non plus pour autant faire une orthodoxie ou un leitmotiv dans la vie, mais c'est toujours important de savoir ce qui s'est passé. Voilà.
Oui, je partage tout à fait ce qui vient de se dire, à la fois la dimension sociologique évoquée par Daniel, la dimension psychologique et personnelle évoquée, mais pas seulement par Alban. Moi, je pense que l'histoire, d'abord, contrairement à ce que beaucoup imaginent, n'est jamais écrite définitivement. Et donc, s'intéresser au passé, même le plus lointain, même pour lequel on pense que l'histoire a déjà été écrite, ça apporte toujours une nouvelle vision, une nouvelle compréhension. Comme l'a dit Alban, les histoires personnelles des historiens sont importantes pour expliquer leur motivation et leur démarche. Pour ce qui me concerne, je dirais deux ou trois choses. La première, c'est, n'étant ni stéphanois ni ouvrier, étant arrivé à Saint-Étienne à l'époque de mon adolescence, j'ai été très intrigué par ce monde ouvrier qui, à l'époque, était très visible. Les ouvriers qui sortaient des usines se voyaient beaucoup, circulaient en vélo ou en mobylette. C'était quelque chose d'assez impressionnant. Donc ça m'a toujours intéressé. J'ai eu beaucoup d'amis qui était à l'école avec moi, qui sortait du monde ouvrier. J'ai eu une femme et une belle famille qui étaient de famille ouvrière. Donc tout ça, ça fait des motivations personnelles. Et puis, je crois que le mouvement ouvrier, effectivement, dans la période que j'étudie plus particulièrement, c'est-à-dire de 1945 à 1968, a été une sorte d'apogée qui a constitué un moment très fort où les Français avaient un sens du collectif. Et ça, c'est quelque chose après lequel on est en train de courir. Et Daniel l'a un peu évoqué. Sans doute sous d'autres formes, mais peut-être que se pencher sur l'histoire du mouvement ouvrier, ça peut permettre de retrouver de nouvelles formes de liens sociaux et de liens collectifs pour l'avenir.
Ok, donc voilà, après cette entrée en matière, moi j'ajouterais par exemple, j'ai grandi à Saint-Étienne et je me suis rendu compte quand vous avez proposé ça, cette émission sur ce qui se passe pendant la guerre 39-45, que je ne savais absolument pas ce qui se passait à Saint-Étienne pendant la guerre 39-45. Donc voilà, on va commencer avec donc Jean-Michel Stenner, qui voulait nous raconter un peu avant la guerre ce qui se passe, l'attitude des syndicats, le rôle du mouvement ouvrier et lors de l'éclatement de la guerre, ensuite ce qui se passe.
Oui, alors... Bon, les défauts de l'historien, c'est toujours de chercher des causes un peu antérieures. Je ne peux pas parler de cette entrée en guerre sans revenir, j'espère, en deux mots, sur l'entre-deux-guerres, à la fois sur le plan local, national et international. Deux mots, j'ai dit, pour moi, les deux mots, c'est division et défaite. Alors que le mouvement ouvrier était dans une poussée très importante avant la guerre de 14, il sort de cette guerre divisé. La révolution russe a entraîné un schisme, comme on dit, important entre à l'intérieur du mouvement socialiste, donc schisme politique, traduit au congrès de Tours de 1920, scission syndicale au congrès de Saint-Étienne entre la CGT pro-socialiste et la CGTU pro-communiste, et puis, bien sûr, toujours... La tendance représentée par les syndicalistes révolutionnaires, rapidement ou hâtivement qualifiés d'anarchisantes, mais les choses sont plus complexes. Division donc, défaite aussi. Et je crois qu'on n'insiste pas. Quand on parle de l'entre-deux-guerres, souvent on parle du Front populaire. C'est le grand moment, c'est le moment d'unité, d'enthousiasme et tout. On oublie tout simplement que le Front populaire a été précédé d'une série de défaites absolument catastrophiques pour le mouvement ouvrier européen. 1922, la victoire du fascisme. 1933, les deux défaites majeures du prolétariat allemand. 1934, l'écrasement de la grande grève des mineurs des Asturies. Donc c'est indispensable pour comprendre que ce mouvement ouvrier, il a été sonné et fortement sonné par ces événements. 35-36, c'est un moment, une espèce d'ouverture, de tentative de retour à une vision plus unitaire, donc c'est la réunie congrès de réunification de la CGT, par exemple, en 1935, et donc le Front populaire, mais ce n'est qu'un feu de paille, une embellie, comme ça a été dit quelquefois. Et ces défaites, elles reprennent très vite, avec notamment donc, l'année 1938. L'année 38, c'est une année majeure, je crois, parce qu'il apparaît à ce moment-là que l'unité syndicale vole en éclats. Elles veulent en éclat sur la question d'abord du fonctionnement du syndicat. Donc la tendance communiste pratique, si je reprends les termes de ses opposants, un noyautage systématique des organisations et donc est en train d'organiser son hégémonie sur la CGT. Et puis donc les risques de guerre qui montent très vite à partir de 36, 37, 38. Et face à la guerre, eh bien, le mouvement ouvrier va se diviser. Donc au moment de Munich, une partie soutient Munich parce que c'est le pacifisme.
Munich, justement, tout à l'heure, quand on préparait l'émission, je me suis sentie bête. Moi, je ne sais pas ce que c'est Munich, cet événement.
Alors Munich, c'est un traité, c'est des accords, plus exactement, qui ont été signés donc, au début du mois d'octobre 1938. Par lesquels, pour faire simple et rapide, les Français et les Anglais ont littéralement abandonné la Tchécoslovaquie aux Allemands, avec l'appui de Mussolini. Et face à cette crise internationale qui est grave, puisqu'au moment de Munich, les Français ont mobilisé, la guerre aurait pu éclater à ce moment-là. Donc ils ont mobilisé, et le mouvement ouvrier s'est divisé. Sa tendance... socialisantes étaient majoritairement, pas totalement, mais majoritairement pour Munich, parce qu'on a vu dans Munich, comme l'a dit Blum, une sorte de soulagement, un lâche soulagement, pensant que ça allait repousser l'échéance de la guerre. La tendance communiste est au contraire anti-munichoise. Alors, pour des raisons avouées, parce que Hitler, c'est le fascisme, donc il faut s'opposer à Hitler, et pour des raisons moins avouées, parce que Munich est vécu par les soviétiques comme un accord qui est tourné contre eux. Donc un accord des puissances de l'Occident, et donc ils y voient une perspective éventuelle de guerre contre l'URSS. Et tout ça va justement conduire à la situation de la veille de la guerre. Donc Munich, en même temps, le risque de guerre, la montée de la guerre est évident. Et donc le gouvernement de l'époque, donc déjà dirigé par Daladier, remet en cause très, très brutalement les accords du Front populaire, remise en cause des 40 heures. Et pour protester contre cette action, les ouvriers, enfin les syndicalistes de la CGT, surtout la tendance donc communiste, décident d'organiser une grève le 30 novembre. Cette grève, elle est mal perçue parce qu'elle apparaît comme très politique. Et en même temps, elle mobilise. À Saint-Étienne, il y a une mobilisation très importante sur cette grève du 30 novembre 1938. Le gouvernement en fait une épreuve de force. Il va essayer de casser le mouvement. Il le réussit d'ailleurs. Le résultat, c'est des milliers d'ouvriers qui sont révoqués. Des milliers qui sont révoqués, qui sont renvoyés. Et donc, ça crée, entre les socialistes qui étaient contre la grève et les communistes qui l'avaient soutenue, ça crée une nouvelle fracture qu'on va retrouver. Deuxième fracture, c'est au moment du pacte germano-soviétique, donc qui est signé le 23 août 1939. Alors, ce pacte germano-soviétique n'est pas du tout compris par les ouvriers en général, et en particulier par les syndicalistes de la CGT, qu'ils soient socialistes ou qu'ils soient communistes. On ne comprend pas que tout d'un coup, Staline décide de s'allier avec Hitler. On ne comprend pas ou on comprend trop que c'est un accord qui a des intérêts, qui défend essentiellement les intérêts de l'URSS. Donc le pacte germano-soviétique va susciter une très brutale scission à l'intérieur du syndicat. Une bonne partie des syndicalistes pro-communistes vont plus ou moins partir dans la nature. Enfin, il y a une désaffection très forte du parti à ce moment-là. On l'estime entre un tiers et 50% des adhérents qui vont quitter le parti. Une partie va rester pendant un mois à peu près dans l'expectative. Et puis finalement, les directives de Moscou étant précisées pendant le courant de septembre 1939, eh bien, vont accepter, adhérer, soutenir le pacte germano-soviétique en dépit de tout, je dirais, le mouvement d'opinion publique qui semble totalement désapprouver ce pacte qui semble une sorte de trahison vis-à-vis de la France.
En gros, c'est terrible. C'est comme si les communistes étaient dans une machine qui les dépasse complètement et qui sont obligés de suivre.
Tout à fait.
Même si...
C'est tout à fait ça, effectivement. D'autant plus que pour eux, Hitler, c'était l'homme qui avait écrasé le prolétariat allemand, l'homme qui avait soutenu Franco contre les républicains espagnols. Tout ça, c'est incompréhensible.
Incroyable.
C'est incompréhensible, c'est incroyable. Mais une partie des militants, finalement, va se rallier à l'idée qu'il faut défendre l'URSS parce que c'est la patrie du socialisme et donc elle est menacée. Il faut la défendre à tout prix, même au prix de soutenir ce pacte. La réaction du pouvoir, c'est l'interdiction du Parti communiste et de toutes ses organisations par le décret du 26 septembre 1939. Et sur place, chez nous, à Saint-Étienne, c'est perquisition dans les locaux du Parti communiste, perquisition à la Bourse du Travail, dissolution de toutes les organisations liées au Parti communiste, donc CGT, les Amis de la Paix, les Amis de l'URSS, etc. Toutes ces organisations que le Parti communiste avait créées dans les années 30. Et donc les militants qui sont convaincus que c'est la ligne juste vont se replier dans la clandestinité. Alors il se passe un événement important à la fin du mois d'octobre 1939. C'est une réunion donc clandestine des dirigeants du Parti communiste, des dirigeants de la plupart des syndicats. Il y a le représentant des syndicats des cheminots, du syndicat de la masse Cussonet. Il y a le représentant des instituteurs, Claudius Buard. Il y a Claudius Delorme qui représente une partie des syndicats des mineurs. Donc ils se réunissent à Saint-Jean-Bonnefonds et une descente de police. Ils sont tous arrêtés et donc ils tombent sous le coup de la justice et particulièrement de la justice militaire. Donc ils sont transférés à Clermont-Ferrand et ils sont jugés par le tribunal militaire de Clermont-Ferrand. Le procès, c'est assez intéressant à noter, a lieu le matin du 10 mai 40, c'est-à-dire le jour où les Allemands envahissent la France. Donc ils sont condamnés à la prison, Claudius Delorme 10 ans de prison, enfin condamnés à la prison, et là-dessus arrive donc l'offensive allemande, la défaite française, et donc début juillet 40, l'installation du régime de Vichy. Donc ces gens ont été des opposants au régime de Daladier, emprisonnés par le régime de Daladier, mais se retrouvent en prison sous le régime de Vichy, dans une situation un peu étrange, puisque l'URSS est alliée avec l'Allemagne, et dans une situation qui fait que pendant un an, le Parti communiste va quand même pas mal hésiter sur les modalités qu'il donne à ses actions de résistance, se tournant plus contre le régime de Vichy que contre l'occupation allemande. Alors, cette affaire de l'arrestation de Saint-Jean-Bonnefonds, du pacte germano-soviétique, de l'arrestation de Saint-Jean-Bonnefonds, elle a marqué toute l'histoire du mouvement ouvrier pendant la guerre, parce que qui est-ce qui est maire de Saint-Étienne, c'est-à-dire responsable de la Bourse du Travail, c'est Ferdinand Faure, qui est par ailleurs un des principaux dirigeants de la SFIO départementale. Et donc, pendant toute la guerre, les socialistes et les communistes vont se reprocher mutuellement d'avoir été des agents de la répression ou de l'ennemi. Et ces comptes-là, ils vont se régler au lendemain de la guerre. Mais toujours est-il qu'en 1940, lorsque la guerre commence, lorsque l'occupation commence, que le régime de Vichy s'installe, donc le mouvement ouvrier est globalement décapité, écrasé. Et il faut ajouter, donc au mois d'août 1940, une des premières mesures de Vichy, ça a été l'interdiction du droit syndical. Bon, je m'arrête là pour l'instant. Je ne sais pas si j'ai assez mis en place le contexte, mais bon, j'étais assez long.
Ouais, mais ça me semble clair comme introduction. Peut-être on pourrait écouter un petit peu de musique.
Oui, une petite pause musicale. Alors on va écouter le chant des partisans, interprété non pas par Yves Montand ni par Zebda, mais par une certaine Germaine Sablon. Voilà, c'est parti.
Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. De la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, oui, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Les compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute.
Et voilà, il est midi 26, vous écoutez Radio Dio, l'émission du numéro 0, l'émission des luttes et des colères. Et nous sommes toujours avec les gens du Grémos qui nous parlent de la période de la Deuxième Guerre mondiale à Saint-Étienne. Et voilà.
Et voilà. Et donc moi, pour enchaîner, je voulais vous poser une question quand même. On vient d'écouter une interprétation du chant des partisans. Pourquoi vous nous avez proposé cette chanson pour cette émission ?
Effectivement, c'était bien de l'écouter, mais il y a un léger décalage. C'est-à-dire que l'exposé de Jean-Michel, on est dans la première partie de la guerre, donc tout ce qui vient d'être dit sur le Parti communiste. Et cette chanson, elle est significative de la deuxième partie, donc des années 44-45, où le Parti communiste et la résistance, mais il n'y a pas que la résistance communiste, mais où on a cette chose étonnante qu'en deux ans, le Parti communiste passe de la dénonciation de la guerre, des positions antipatriotes et dénoncer la guerre impérialiste de la France. Maurice Thorez va se réfugier en Russie. Donc le Parti communiste trouve le moyen de passer d'un antipatriotisme extrême à un patriotisme tout aussi extrême. Donc ce chant est représentatif de ce grand écart entre le Parti communiste et qui permet de comprendre ce qui s'est passé pendant la guerre et surtout des problèmes de fond sur le décalage entre ce qu'on pourrait appeler la continuité de l'histoire, et il y aurait des choses à dire sur la continuité de l'histoire, et la discontinuité qui, elle, passe par des péripéties politiques assez invraisemblables où le jour présent fait oublier le jour passé. Donc, ce que je voudrais compléter peut-être sur ce que Jean-Michel disait, c'est alors, la chose très importante que Jean-Michel a dit, c'est que le mouvement ouvrier est très affaibli. Le mouvement ouvrier révolutionnaire a pratiquement été détruit dans le monde, dans l'entre-deux-guerres. On pourrait citer, il a oublié l'Espagne, ce qui est quand même qui est un exemple très important. Mais si c'est le cas en Argentine, c'est le cas au Brésil, c'est le cas au Chili, c'est le cas partout. Les mouvements ouvriers révolutionnaires sont brisés et ils sont compensés. Donc là, il y a un gros problème. Ils sont compensés par le phénomène communiste qui sert de structure refuge à la fois comme idéal. C'est très, très étrange, le communisme, parce que je ne parle pas du communisme d'après 45, hein, ça, c'est très différent, mais le communisme d'avant 45, c'est à la fois des petits groupes qui vivent un idéal de la révolution alors qu'autour d'eux, les conditions sont en train de s'effondrer. Et d'autre part, c'est des petits groupes qui sont soutenus par un appareil, un État totalitaire qui, lui, a des moyens et surtout une aura très forte. Donc il y a une espèce de décalage, mais le mouvement ouvrier révolutionnaire est quand même brisé dans l'entre-deux-guerres. Et donc les syndicalistes qui n'ont pas été communistes ils essayent de maintenir une certaine continuité de l'histoire ouvrière. Il y aurait beaucoup à dire sur l'idéologie syndicaliste révolutionnaire. Et ils sont pris un peu dans cette situation où ils vivent quand même des choses extraordinaires. C'est-à-dire que les communistes, alors qu'ils sont en lutte contre les communistes depuis des années dans la Loire et dans les syndicats, brusquement, le communisme donne l'impression de révéler sa vraie nature, c'est-à-dire de faire n'importe quoi et simplement d'être aux ordres de Moscou. Et donc, du coup, ça leur donne raison après coup, mais il y a des fois des raisons qui sont terribles. Et deux ans après, ils sont confrontés à un parti communiste qui est nationaliste et qui, je signale que le Front National, le sigle Front National, c'est un sigle communiste en 44-45. Et donc le Parti communiste est dans un patriotisme extrême. Donc les syndicalistes qui sont restés syndicalistes, ils sont complètement dépassés. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire sur la question de la défaite. Et sur ce qui se passe. Alors maintenant, sur ça, c'est la discontinuité politique, c'est les péripéties politiques qui jouent un grand rôle, parce qu'au nom de ces péripéties politiques, des gens se font fusiller ou se mettent en prison, etc. Mais sous-jacent, on peut observer pendant la guerre une espèce de grande continuité sur un certain nombre de points, et donc une continuité technocratique. Ou une continuité économique. C'est très intéressant de voir que toute la technocratie française qui profite de Vichy pour faire passer toutes ses idées, elle est à l'œuvre en 45-46. C'est à peu près les mêmes, que ce soit sur la question du plan, la question de la famille. Le ministère de la Famille, c'est un exemple très intéressant, où pratiquement tout le ministère de Vichy reste en place en 45. Donc il y a une espèce d'histoire longue, technique, et économique, et puis une histoire courte de péripéties partisanes et d'affrontements. Et donc, tu voulais poser une question ?
Non, ouais, je voulais rajouter aussi au niveau de cette continuité qu'il y a pu avoir entre la période de guerre et après, les comités sociaux qui ont donné naissance aux comités d'entreprise aussi, voilà, qui ont été largement repris. Oui, voilà.
C'est exactement l'exemple de la métallurgie. Donc, la discontinuité, elle est... Alors, il y a un autre aspect. Je vais revenir sur la continuité, en particulier dans le mouvement syndical. Mais la discontinuité, on peut donner un autre exemple. Enfin, il y a un autre point que je voulais souligner. Donc le premier, c'est la discontinuité, les retournements de situation. Mais le deuxième, alors il faudrait se rattacher, se réclamer de Nietzsche ou d'une pensée théorique plus forte, c'est qu'en fait, toute chose peut prendre des sens radicalement différents. Donc Jean-Michel l'a signalé tout à l'heure. C'est-à-dire que le pacifisme de 14 devient innommable en 39. Et donc, dans la durée d'une vie, il faudrait voir les durées différentes. Dans la durée d'une vie, un militant, il vieillit. Mais en plus, une position qui paraissait juste paraît fausse par la suite. Donc, il faut vraiment toute la gymnastique dialectique des partis communistes pour arriver à justifier des retournements comme ça. Mais pour un militant de base... C'est très compliqué de saisir la signification des événements. Alors sur la continuité, je pense que la position, je vais donner l'exemple de la métallurgie, il y aurait beaucoup à dire sur les mineurs, mais on y reviendra peut-être dans l'autre émission. Donc dans la métallurgie, que moi j'ai étudié plus particulièrement la métallurgie à Saint-Étienne, on voit bien comment il y a une espèce de continuité, même si le mouvement ouvrier est en train de changer de nature, et il cesse d'être révolutionnaire, on peut dire ça à partir dans l'entre-deux-guerres, ce mouvement ouvrier, il continue de maintenir une continuité de son mouvement et du geste qu'il a depuis le 19e siècle, et en particulier de dire que la lutte des classes traverse et une continuité par rapport aux péripéties politiques, et donc que la lutte des classes continue, et que le mouvement ouvrier, il doit continuer. Donc, si je reprends le récit de Jean-Michel, quand les militants communistes sont arrêtés, pourchassés par le pouvoir, ce qui joue aussi un rôle les raisons sont mauvaises, et en même temps, ils sont victimes de la répression, ce qui est un élément très important, à ce moment-là, les équipes syndicales qui sont opposées aux communistes dans tout l'entre-deux-guerres, dans un contexte de défaite, reprennent les directions de la Bourse du Travail, même si les noms changent. Et donc le mouvement syndical redémarre. Et il redémarre dans le cadre de la Charte du Travail, où il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc la Charte du Travail, c'est une mesure proposée par le régime de Vichy qui tente de rallier la classe ouvrière à l'ordre nouveau qui se met en place à partir de 40. Donc là, c'est très compliqué à expliquer, mais la charte du travail, elle participe des continuités que j'ai signalées tout à l'heure. C'est-à-dire que si on prend l'exemple, si on enlève l'idéologie de la charte du travail, les comités sociaux de la charte du travail sont tout simplement ce que vont devenir les comités d'entreprise dans un autre contexte à partir de 1945. Donc c'est très compliqué. Je peux dire quelques mots peut-être sur le...
Pardon. Non, vas-y. Je ne sais pas si c'est le bon moment, en fait. On avait trouvé un petit document d'archives.
Ah oui, oui, bien sûr.
Est-ce qu'on
bon
passe
moment.
Maintenant
ouais,
oui. Oui. Ouais, oui. Alors, donc, on a trouvé un petit document d'archives de télé qui date de 1941, moment auquel messieurs Begrasse et Zoretti présentent un peu et font la promo de cette nouvelle charte du travail. En gros, c'est pour... prôner l'adhésion du monde du travail à la Révolution nationale. Voilà, à savoir que ces archives télévisuelles, elles ont été produites donc, par les actualités mondiales. Et donc, il faut bien se souvenir que toutes ces images, ces documents ont été produits et contrôlés par le régime nazi et par les autorités vichistes. Voilà, faut bien le recontextualiser. Donc, on va voir comment ils le présentent, ce qu'ils en disent. Et ça va peut-être enrichir après ce que tu voulais nous raconter.
La nouvelle charte du travail est à l'ordre du jour. Nos opérateurs ont pu filmer pour vous un débat sur ce problème vital. Monsieur Albert Begras.
Comment alors s'étonner d'entendre les travailleurs français déclarer que rien n'est changé et que la révolution reste à faire? Nous ne voulons pas nous étendre plus longuement sur ce qu'on n'a pas fait, sur ce qu'on a mal fait.
Mais la charte n'a pas voulu s'inspirer des expériences faites par l'étranger.
Chez nous, bien avant l'avènement du national-socialisme, des hommes ont proclamé la haute prééminence du travail et la nécessité d'un système de communauté permettant à leurs membres de collaborer sans hargne malgré les diversités des professions et des fonctions. Allons-nous nous refuser d'appliquer les principes français parce que d'autres nations s'en sont emparées et les ont mis en œuvre avant nous?
L'exposé de M. Zoretti.
Il y avait en 1933 12 à 14 millions de voix électorales qui s'étaient portées sur le Parti social-démocrate et sur le Parti communiste. Il y avait par conséquent un paquet de millions d'Allemands qui étaient socialistes et communistes. Où sont-ils aujourd'hui, ces Allemands? Croyez-vous qu'ils soient dans les camps de concentration? Plaisanterie. Croyez-vous qu'ils sont à l'immigration? Leurs chefs, mais pas les masses, n'est-ce pas? Ils sont là. Ils sont à pied d'œuvre. Ils ont collaboré avec Hitler, peut-être d'abord avec des réticences. Aujourd'hui, ils collaborent pleinement avec lui. Vous le savez bien. Eh bien, camarades, c'est avec ces camarades-là qu'il faut que nous entendions. Nous sommes prêts à nous entendre, nous ne pouvons pas faire autrement que de nous entendre.
Voilà. Oui, oui, c'est impressionnant. Et la dernière intervention de Zoretti, qui vient du Parti Socialiste, je pense, il me semble, est un bon exemple de... Effectivement, je crois que... La question, c'est une bonne question qui pose que sont devenus les millions de sociodémocrates allemands et syndicalistes. Donc ça éclaire ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Je porte aucun jugement, évidemment. Ça veut dire simplement que des réalités qui sont prises dans un agencement émancipateur et révolutionnaire peuvent très bien, sans changer beaucoup, se retrouver pris dans des agencements réactionnaires ou autres. Ça permet de comprendre plein de choses comme ça. Alors, je voudrais peut-être donner l'exemple. Oui, pardon.
Moi, je veux dire deux choses à propos, parce que c'est vrai que ces extraits des actualités cinématographiques, les extraits sonores sont passionnants, intéressants. Moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces orateurs utilisent des éléments à destination du public ouvrier. Oui, donc, l'affirmation de la haute prééminence du travail, je notais ça, c'est-à-dire sous-entendu, effectivement, avant la guerre, c'était la finance, c'était le commerce qui l'emportait, et le vrai travail, c'est le travail des ouvriers. Donc, il y a cette dimension, entre guillemets, ouvriériste. Et puis, il y a quand même, quelque part, c'est un peu difficile à mettre en jour, mais on le sent quand même, une tentative de flatter des relents d'internationalisme, de fraternité entre les ouvriers allemands, les ouvriers italiens, etc. Ouais.
Oui, donc il faudrait resituer dans le contexte. Enfin, par exemple, il y aurait une histoire à faire. Ce n'est pas Saint-Étienne, il n'y a pas eu ça à Saint-Étienne. Mais comment des pans entiers du Parti communiste et du mouvement ouvrier en Seine-Saint-Denis sont devenus étranges, un ovni étrange, et ont rejoint le fascisme. Avec Doriot et avec d'autres. Donc, oui, je crois que les auditeurs devraient se... Enfin, je parle aux auditeurs. Pardon. Mais c'est de voir que les choses sont très compliquées et qu'il faut avoir un grand sens sur ce que c'est que la liberté et l'émancipation pour ne pas se tromper. Hein, et des repères, soit partisans, soit de pratiques ou de prises de position, sont souvent un danger. Quand elles restent, ça devient une idée fixe qui traverse le temps figée. Alors je vais dire quelques mots sur le syndicat de la métallurgie, qui est un bon exemple. Donc le syndicat de la métallurgie...
Est-ce qu'on peut expliquer quand même vite fait ce que c'est la charte du travail ?
Donc la charte du travail, c'est le fait qu'un certain nombre de syndicalistes, ça remonte à l'histoire, la tendance la plus réformiste des syndicalistes non communistes, se sont ralliés au régime de Vichy et ont... Donc c'est une tentative de résoudre le problème de la lutte des classes et de l'affrontement entre le travail et le capital à travers une vision corporatiste. Donc il y a une espèce de récupération, Proudhon est récupéré, un certain nombre de militants se rallient à ce... Donc sur Saint-Étienne, les syndicalistes qui restent à la tête des organisations syndicales acceptent la charte du travail. Donc l'exemple que je peux citer, qui est un militant de Saint-Étienne, que moi j'ai rencontré puisqu'il s'occupait des retraités de Force ouvrière, il s'appelle Jean Seigne. Jean Seigne, c'est un métallurgiste qui a été secrétaire des comités syndicalistes révolutionnaires en 18 et en 19, qui est militant anarchiste et qui est très représentatif de gens extrêmement estimables comme Urbain Thévenon, qui est un instituteur, et un certain nombre de gens comme ça. Donc Jean Seigne se retrouve secrétaire, il retrouve le secrétariat qu'il avait exercé longtemps avant, secrétaire du syndicat des métaux, qu'on dit le syndicat Pétain, puisque c'est le syndicat qui est officiel et reconnu par... Et donc Jean Seigne, alors que ce serait... Donc oui, il faut vraiment expliquer dans le détail... J'enseigne, eh bien, il entreprend de dire on va appliquer la charte du travail. Donc les patrons de Saint-Étienne sont obligés de faire des élections de délégués, etc. Et dans toutes les usines, compte tenu des circonstances, donc là Alban pourra peut-être éclairer ça, compte tenu des circonstances, le mouvement revendicatif ouvrier reprend. C'est-à-dire qu'à propos des élections de délégués, il y a des revendications, le syndicat grossit ses effectifs et commence à inquiéter sérieusement les pouvoirs publics. Donc là, c'est un bon exemple du pari de la lutte, que la lutte ouvrière continue. Alors ce qui est très intéressant du point de vue du syndicat, c'est que les militants métallurgistes communistes rentrent dans le syndicat, font partie du conseil d'administration, et donc on a cette chose étrange d'un syndicat Pétain qui est très revendicatif, assez puissant, et qui... Alors, à la fin de la guerre, le pauvre Jean Seigne se trouve arrêté. Donc, moi, j'ai interviewé pas mal de militants communistes de la métallurgie, et donc, je leur posais toujours la question en disant... alors, Jean Seigne, il était collabo et tout ça. Tous les militants communistes disaient « Non, on peut pas dire ça, vous n'allez pas dire ça. » Voilà, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, d'une certaine façon, il y a une continuité ouvrière et revendicative qui continue. Enfin, vous avez peut-être des choses à dire sur ce point-là. Il faudrait parler des mineurs, qui est un autre problème.
Moi, je crois que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, tu as évoqué Proudhon. Et donc, la charte du travail, c'est vrai, c'est l'inspiration de la charte du travail, c'est l'exemple italien. Et c'est l'exemple portugais, c'est le corporatisme. Donc c'est l'idée qu'il n'y a plus de lutte des classes, qu'il y a une solidarité du travail, patron, producteur, ouvrier, etc. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Proudhon. C'est l'idéal, finalement, d'une société dans laquelle les producteurs s'administrent eux-mêmes, dans laquelle il n'y a plus d'intermédiaires financiers, d'intermédiaires... Donc, ces éléments-là existent dans l'extrême droite française. Ils sont repris. On retrouve dans le discours du Front National, tu l'as dit très bien aujourd'hui. Et donc, la charte du travail, elle essaye d'utiliser ces fibres, si on se place dans le passé lointain, ces éléments idéologiques qui viennent d'un passé lointain et qui rencontrent un certain écho.
Oui, mais ça recouvre le problème de fond que je posais tout à l'heure, et celui de la question du début, c'est que rien du passé ne passe. Oui. Donc on garde tout. Et quand on disait tout à l'heure que refaire l'histoire romaine, l'histoire n'est jamais écrite définitivement, ça veut dire qu'on ne sait jamais la signification d'un élément, quelle signification il peut prendre dans un agencement donné.
Dans un contexte nouveau.
Dans un contexte nouveau. Donc ça veut dire que c'est évident que c'est ce qui est passionnant d'un point de vue sociologique, c'est le fait que les textes de Proudhon aient pu à la fois servir de référence à des militants révolutionnaires entièrement engagés dans la lutte des classes, que Proudhon condamnait le syndicalisme et les grèves, Proudhon le condamnait, et que Proudhon puisse être réutilisé par les royalistes avec le cercle Proudhon ou d'autres. Donc c'est un exemple qu'une chose... Moi, je ne désespère pas de penser que même dans Staline, il doit peut-être y avoir deux, trois points... Non, je plaisante, là, c'est une blague entre nous.
Toujours dans l'idée de la continuité, Madame Lurard avait dit dans sa thèse à un moment que, justement, sur l'application de la Charte du travail, déjà que toutes les entreprises ne l'avaient pas mis en...
Mais les patrons ne sont pas d'accord.
Ils n'ont pas fait, mais... Non, mais c'est
parce
pas
que
ça.
Eux, ils pratiquent la lutte des classes.
Mais non, c'est que certains patrons... ont prétendu, dans les années 40, quand on a voulu faire appliquer cette charte du travail, justement, ils ont dit, mais nous, ça fait des années qu'on l'a fait, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant dans la continuité.
À cause de 36.
Même avant 36. En fait, ils disaient déjà qu'ils avaient une politique de proximité et de...
Internalisme.
Oui, voilà, ouais. Dans quel secteur? Parce
que moi, je... Dans la métallurgie, sur Saint-Etienne. Bien sûr, après, tout sur ces questions d'agencement, dans chaque entreprise, dans
c'est,
chaque...
C'est une longue histoire, mais les patrons de cette époque, parce qu'il n'y avait pas de bureaucratie syndicale comme maintenant, enfin, j'en sais rien, ou de lois nombreuses, mais les patrons, le délégué qui est le fonctionnement logique, enfin, immédiat, depuis le 19e siècle... Hein, les patrons l'acceptent très mal. Enfin, les patrons de cette époque. Hein.
Oui. C'est la charte du travail qui met en place, par exemple... qui oblige les patrons à avoir des délégués ouvriers.
Oui, par exemple, sur les comités sociaux. Mais il y a plein d'autres aspects dans la charte. Mais la charte du travail, c'est un espèce d'appareil grotesque avec des familles. Ça n'arrive pas à se mettre en place. Ça permet à quelques petits bureaucrates d'être payés. Mais par contre, à la base, un des aspects concrets de la charte du travail, c'est quand même les délégués, parce que là, ça rentre dans
une
histoire ouvrière.
En même temps, quand la charte du travail est mise en place officiellement, Pétain fait le déplacement pour la présenter à Saint-Étienne. C'est à Saint-Étienne, c'est pas à Lyon, c'est pas à Marseille, c'est à Saint-Étienne qu'il est venu la présenter. Et je crois que c'est pas complètement un hasard. D'abord, il y a une certaine proximité, évidemment géographique, de Vichy. Mais c'est aussi parce qu'il y a une réalité économique à Saint-Étienne où, bon, il y a quelques grosses boîtes, mais le modèle, c'est quand même la petite boîte de 4 ou 5 ouvriers avec un patron qui a une relation de proximité.
Direct,
hein. Il mange à midi avec ses ouvriers. Il négocie le salaire.
Hein, ouais, t'as raison.
Si, ça, c'est une dimension absolument importante dans le paysage ouvrier stéphanois, je crois qu'il faut, faut prendre en compte.
Les syndicats des métaux.
Oui, oui, alors donc le syndicat des métaux, eh bien, j'ai tout dit sur le syndicat des métaux. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de voir comment un syndicat très, très passif au début et très à cause de la situation redevient un instrument de lutte pour la classe ouvrière et se réapproprie toutes les formes de passées de cette lutte avec les délégués et autres. Et comment, dans cette lutte, les militants qui sont divisés, communistes ou non, se retrouvent tout simplement dans la lutte des classes et dans le mouvement ouvrier.
Donc cette passivité, tu l'attribues à quoi ? Au fait que les dirigeants d'avant-guerre... Donc, notamment Ramier, Patineau, qui étaient des dirigeants du syndicat des métaux, ont été arrêtés ou sont dans la clandestinité. Ou est-ce que...
Non, la passivité, c'est que c'est un coup de gourdin. Ouais. C'est les événements sont incroyables. Enfin, on a signalé... Donc, pour les militants, c'est vraiment une... Par ailleurs, je crois que tu l'as bien dit, mais moi je connais un petit peu moins. Enfin, si, je me suis intéressé.
La grève de 38 a été absolument.
A été une catastrophe.
Ouais, ouais, tout à fait.
Donc, oui, moi, parce que moi je connais bien l'histoire des métaux par les aciéries de Saint-Étienne, où on a mené des travaux, mais alors très détaillés. Donc, le syndic, comment il s'appelait la grève de 37. Moi, j'ai pu interviewer Fabre, qui était secrétaire du syndicat des aciéries de Saint-Étienne. Et effectivement, non, ce que tu as dit, moi, qui me paraît très intéressant et que moi, je voyais peut-être pas suffisamment nettement, c'est le fait que 36, c'était vraiment un coup d'épée dans l'eau.
Un intermède. Alors que justement, dans l'histoire, si tu ouvres un manuel de première, dans l'entre-deux-guerres, on parle de 36, point final.
Ça n'a pas de sens.
Alors que c'est un intermède.
Voilà. Donc,
très important, bien sûr. Parce que dans la mémoire collective, on a gardé les congés payés. Mais à l'échelle de l'Europe et de la longue durée historique, 36, c'est pas grand-chose. Hein.
Ça, c'est vraiment... Parce que si on reprend la métallurgie dans l'entre-deux-guerres, à part l'intermède 36, où il y a des adhésions en masse, mais qui ne durent pas, ce qui est très intéressant, c'est de voir que le syndicat des métaux de Saint-Étienne, qui est quand même un syndicat très fluctuant dans ses effectifs, mais qui peut avoir 1000, enfin bon, si on prend la période de la guerre, mais même avant 14, qui a eu 800 jusqu'à 1000 adhérents. Dans l'entre-deux-guerres, il n'y a plus de métallurgistes. La CGTU a un syndicat régional où il y a 60 adhérents. Mais je ne sais plus les limites du... Donc, d'une certaine façon, la métallurgie se reconstitue. Donc, j'ai oublié comment il s'appelle, le secrétaire... des métaux qui va rester longtemps en place, bah Besançon, Bourguignon, non, j'ai oublié.
Non, Roussillon.
Roussillon. Roussillon, c'est un militant, c'est un jeune militant. Ce serait une histoire, c'est intéressant de faire l'histoire de ces militants-là, parce que Roussillon, qui va jouer un grand rôle dans les années 50 et 60, il fait partie du conseil d'administration du syndicat des métaux. Il milite aux côtés de Seigne et des autres.
Et donc, pendant la guerre, il y a des mouvements revendicatifs à Saint-Étienne menés par des syndicats.
Donc, quelques mots sur les mineurs.
On en parlera plus lors de la prochaine émission. Il y a quelques mouvements revendicatifs et ils permettent de mettre en avant justement cette scission. Donc, la lutte des minoritaires et des majoritaires qui se reconstituent pendant cette période aussi. Donc, on en parlera dans la prochaine émission. La grève de 43, notamment, elle met bien des mineurs à Saint-Étienne, spécialement un peu moins dans le bassin stéphanois, mais bien en avant, justement, la recomposition des syndicats, la lutte entre les syndicalistes clandestins et les syndicats officiels qui, eux, vont vouloir, on en parlera, donc, briser la grève et l'arrêter au plus vite. Donc on expliquera un peu mieux la prochaine fois pour quelles raisons. Mais cette période, oui, il y a quand même des mouvements de grève sur Saint-Étienne pendant la guerre de 39-45. Et il y en a d'ailleurs aussi dans la France. Et même les historiens ont réussi à montrer que depuis l'après-guerre, où il y a eu les grandes grèves de 1919-1920, la période de 39-45, c'est vraiment la renaissance des luttes en France. Bien sûr, il y a eu des grèves importantes dans l'entre-deux-guerres, mais elles restaient dans certaines entreprises, dans certaines localités. Mais dans tous les cas, pendant cette période de guerre, il y a beaucoup de mouvements de protestation et de mouvements de grève. Donc Daniel Tartakovsky a bien montré comment les manifestations de rue vont reprendre une ampleur considérable pendant la période de guerre. Donc contre toute attente, on pourrait croire qu'il y avait moins de... que les gens étaient moins mobilisés et moins mobilisables justement à cause de l'occupation ou des conditions de vie qui étaient extrêmes. Justement, au contraire, ça aussi force les gens à prendre position d'une certaine façon. Donc on en parlera mieux la prochaine fois, mais il y a des mouvements de grève, il y a des mouvements de rue qui se passent pendant la guerre et qui, pour les historiens, ils l'ont montré par certains chiffres, prennent d'une ampleur considérable par rapport à la période 1920-1936, on va dire. 36, c'est une parenthèse, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, une parenthèse qui a son importance, mais et justement dans la continuité-discontinuité, 36 a été récupéré d'une certaine façon. C'est une sorte d'impulsion du monde ouvrier, du mouvement ouvrier, mais en même temps une forte récupération par les gouvernements. Donc on pourrait se poser la question pour des émissions futures sur cette continuité-discontinuité des revendications ouvrières à partir du 19e siècle. Où il y a cette tension permanente entre une institutionnalisation des syndicats, des mouvements de grève, une volonté de rupture avec l'ordre établi et en même temps toujours cette tendance à pas déborder les cadres traditionnels parlementaires. Et c'est vrai que cette question-là, en fait, c'est celle qui traverse tout le champ syndical et tout le champ politique depuis le 19e siècle et le monde ouvrier, donc, et le mouvement ouvrier. C'est jusqu'à où, jusqu'à quel point aller ? Est-ce qu'on veut rester dans un cadre républicain ou pas ? Et c'est vrai que cette tension permanente, c'est celle qu'on voit filtrée à travers tout le mouvement ouvrier du 19e au 20e siècle. Et 68 sera par la suite encore aussi un événement majeur qui posera ces questions du parlementarisme, du rôle de l'État, etc., etc., pour le monde ouvrier. Donc des questions sans fin, comme on le voit, qui ne peuvent être tranchées en une seule émission.
Oui, moi j'ajouterais peut-être un point, mais qui va complètement dans le sens de ce que tu dis, c'est qu'à la fois, pendant la guerre, il faut voir, on reparlera peut-être la prochaine fois, la vie ouvrière était très très dure hein, pour ceux qui n'avaient pas de cousins à la campagne ou qui étaient, tout simplement, les gens avaient faim, donc les revendications ont trouvé ce terrain-là, et surtout très vite, il est apparu que la guerre ayant produit un grand nombre de destructions, c'est vrai qu'il fallait reconstruire la France, et ça a commencé dès 1944-1945. Et la puissance ouvrière de cette époque jusqu'en 68, jusque dans les années 70, c'est quand même le fait que la classe ouvrière était au cœur de l'économie et de la richesse. Voilà. Donc le grand problème qu'il faudrait discuter une autre fois, c'est la mondialisation à partir des années 70 qui enlève à la classe ouvrière sa puissance de fait. Qui, avec tous les problèmes, avec Thorez, la reconstruction et les grèves des mineurs. Et nous pourrons parler des grèves des mineurs de 1948. Revenir à ce qu'on avait
déjà
dit.
Parlé.
On a déjà parlé.
Et tout ça repose toujours sur la question fondamentale de la question internationale, de l'internationalisation du monde ouvrier, et du mouvement ouvrier surtout, toujours posé au 19e siècle, qui posait ce...
Et oui, mais c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, c'est les ouvriers qui étaient internationalistes, enfin bon, dans certaines limites, face à des économies très locales, etc. Voilà. Et donc les communautés ouvrières avaient une puissance locale très grande parce qu'ils avaient derrière eux tous les métiers, etc. Et on est passé à l'inverse, avec des pauvres salariés rivés à leur petite usine dans leur village et qui sont à la merci d'une décision prise à Tokyo ou ailleurs.
Voilà. D'où des replis identitaires aussi sur certaines valeurs. Voilà. Donc il y a des renversements, des contre-renversements. Mmh. Des
ça, c'est un gros problème. Quoi.
C'est un gros problème, oui.
Ok, donc voilà, donc c'était qu'une toute petite première partie sur le monde ouvrier à Saint-Étienne et les mouvements syndicaux pendant la guerre de 39-45. Donc comme on disait en début d'émission, on fera une deuxième partie quand ça, on n'a pas encore décidé, probablement dans 2 semaines ou dans 1 mois, donc le jeudi midi. Est-ce que vous voulez vite fait présenter le contenu de cette deuxième partie et surtout nous rappeler quel est l'intérêt, la question centrale un peu de tout ça et l'intérêt d'en parler.
Bien, donc je vais très rapidement. Et la question qui se pose en 1944 pour les syndicats, c'est la même que pour, je dirais, les institutions républicaines. C'est la restauration d'une légalité qui a été niée et détruite par Vichy. Donc comment les syndicats se reconstituent, qu'est-ce qu'il en résulte en termes de rapport de force entre les différentes tendances et avec quels objectifs, donc notamment, comme vient de le dire Daniel, pour la reconstruction, qu'est-ce que ça signifie comme engagement du mouvement ouvrier aux côtés de l'appareil d'État. Ça, c'est quelque chose de tout à fait unique et nouveau dans le nouveau et unique dans l'histoire de France. Et jusqu'à quand ça dure ? Donc, on a déjà des éléments de réponse. Jusqu'à quand ça dure ? On sait que la grève de 48 est quand même une signature d'une rupture entre le pouvoir et le mouvement ouvrier.
Voilà. Quant à moi, je reviendrai succinctement sur les conditions sociales et sanitaires sur Saint-Étienne. Mais davantage sur la grève de 1943 des mineurs du bassin stéphanois, avec les conséquences du moins directes et davantage les leitmotifs de cette grève et si on peut l'inscrire dans une problématique de résistance et de grève politique. Donc on reviendra là-dessus toujours d'une façon très succincte et en survolant le sujet malheureusement.
Ok, donc on se retrouve, donc c'était l'émission du numéro 0 avec le Grémos sur Radio Dio et donc on se retrouve pour la suite. Alors on ne sait pas exactement quand, donc comme je disais, dans 2 semaines ou dans 1 mois, à midi sur Radio Dio. Et là, cette émission, si vous l'avez prise en cours, si vous voulez la réécouter, c'est à 17h, elle sera rediffusée aujourd'hui même. Voilà, à bientôt, bonne journée. Merci à vous.
Merci.
Au revoir et à la semaine prochaine, dans 2 semaines. Voilà. On écoute une petite musique zigane vite fait, l'Alouette.
Voilà, dédicacée à un ami animateur qui est resté cloué au lit.